Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une publication qui fait pas mal de bruit. Une remise en question assez forte des chiffres officiels sur l'efficacité des vaccins Covid-19. Vous savez, ce chiffre de 14 millions de vies sauvées. Eh bien, une analyse critique récente, ça crée le débat.
Tout à fait. On parle ici d'une métacritique, c'est-à-dire la critique d'une autre étude.
C'est ça.
Celle de Watson et ses collègues. Et c'est Raphaël Lataster de l'Université de Sydney qui s'y colle dans le Journal of Independent Medicine. Il décortique vraiment cette affirmation des 14 millions.
D'accord. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre ces arguments. De voir aussi comment ça s'inscrit dans un contexte plus large. On a vu d'autres controverses, des réformes institutionnelles.
Exactement.
Et surtout, qu'est-ce que tout ça implique finalement ? Alors, pour commencer, la Spataster, qu'est-ce qu'il reproche concrètement à cette étude de Watson ?
Alors, le cœur de sa critique, ce sont les failles méthodologiques. Il les juge assez sérieuses.
Ah oui ?
Oui. En gros, il soutient que l'étude, elle surestime énormément les bénéfices des vaccins. Et en même temps, elle sous-estime ou même elle ignore certains risques potentiels.
D'accord.
Et puis, il met aussi le doigt sur d'éventuels conflits d'intérêts. Il parle de financement par l'industrie pharma, de pression politique aussi.
Le sénateur Ron Johnson est mentionné, je crois.
Voilà, c'est ça. De pression politique qui aurait pu jouer.
Donc, en gros, une balance bénéfice-risque qui serait complètement faussée, selon lui. Et c'est quand même fort comme critique. Quelle est sa conclusion, alors ?
Sa conclusion, c'est que l'idée d'un vaccin pour tous, surtout pour les groupes à faible risque, les jeunes par exemple, ça mériterait peut-être d'être réévalué.
D'accord. Et plus largement, il suggère que ça pourrait être le signe d'un problème plus profond, plus systémique dans la recherche sur la Covid-19.
Intéressant, et j'imagine que ce n'est pas un cas isolé. On sent monter une certaine méfiance, non, vis-à-vis de certaines publications, de certaines institutions.
Oui, tout à fait. Cette critique, elle fait écho à d'autres affaires. On peut penser par exemple au scandale Pradel-Legala.
Ah oui, l'étude sur l'hydroxychloroquine qui a été rétractée.
Exactement. Rétractée parce que les données étaient considérées comme frauduleuses. Elle affirmait qu'il y avait eu énormément de décès liés à l'HCQ.
6-7 000, je crois. Les critiques pointaient déjà, à l'époque, des méthodes douteuses, une possible influence extérieure.
Et il y a aussi eu l'étude Britannic Recovery, non ? Aussi sur l'hydroxychloroquine.
C'est ça. Là aussi, critiquée, notamment pour l'utilisation de doses que certains jugeaient dangereuses.
Qui auraient pu causer une surmortalité.
C'est l'accusation, oui. Tout en ignorant d'autres études qui donnaient des résultats différents, potentiellement plus favorables. Donc, on voit les parallèles avec ce que Lataster dit de Watson. Des hypothèses de départ jugées fragiles, une sous-estimation des risques.
Des doutes sur l'influence extérieure.
Voilà. Des questions sur l'influence industrielle ou politique. Ces cas mis ensemble, ça nourrit le scepticisme, c'est sûr.
Et ça monte même assez haut, puisque nos sources parlent d'une enquête du département de la justice américain, le DOJ, une enquête lancée en 2025 sur les grandes revues scientifiques.
Oui, c'est un point important. L'enquête cherche à savoir si certaines revues prestigieuses n'auraient pas privilégié des études allant dans le sens d'intérêts pharmaceutiques ou gouvernementaux. C'est un signe que ces inquiétudes sont prises au sérieux.
Et en même temps, il y a cette réforme des NIH, les Instituts nationaux de la santé américains. C'est Jay Bhattacharya qui l'amène, c'est ça, nommé en mars 2025, lui-même une voix assez critique pendant la pandémie.
C'est tout à fait ça. Bhattacharya arrive au NIH avec un objectif affiché. Restaurer la rigueur, l'indépendance de la recherche. Réduire l'influence politico-pharmaceutique, comme il dit. Le travail de Lataster, il s'aligne un peu sur cette mouvance critique.
Ça devient plus dur.
C'est le paradoxe, oui. C'est nécessaire de critiquer, mais ça peut aussi fragiliser la confiance qu'on cherche à reconstruire.
Alors, si ces critiques se confirment, quelles seraient les implications ? D'abord, sur le plan scientifique.
Ça pourrait vouloir dire qu'il faut revoir certaines études clés sur les vaccins, exiger plus de transparence, c'est sûr, sur les données brutes, sur les effets à long terme.
Des standards plus stricts pour la recherche future ?
Peut-être, oui. Des standards méthodologiques plus élevés.
Et pour les politiques de santé publique ? L'impact serait direct, j'imagine ?
Oui, potentiellement, sur les recommandations vaccinales. Surtout pour les plus jeunes, les enfants, les ados, là où le débat bénéfice-risque est déjà très animé. Ça compliquerait les campagnes de santé futures, sans aucun doute.
Et on en arrive au nœud du problème. La confiance du public. Parce que ces études controversées, Watson, Pradel-Lega, Recovery, nos sources soulignent qu'elles ont été utilisées par les autorités. L'OMS, la FDA, la NSM en France, pour justifier des décisions importantes.
Exactement. Et c'est là que le bât blesse pour beaucoup de gens. L'impression que des politiques majeures, la vaccination à grande échelle, l'abandon de certains traitements, ont pu reposer sur des données, disons, potentiellement biaisées. Ajoutez à cela, comme le disent certains analystes comme Laurent Mukchieli, une forme de censure ou de mise à l'écart des voix dissidentes, plus l'influence des labos. Tout ça, ça a clairement érodé la confiance. Il suffit de voir les réactions sur les réseaux sociaux, sur X par exemple, c'est très polarisé.
Donc, pour résumer, d'un côté, on a la pastasse et d'autres qui soulèvent des questions qui semblaient légitimes sur la méthode, sur les influences possibles.
Oui, avec des échos troublants entre différentes affaires, comme on l'a vu, Watson, Pradel Lega, Recovery.
Et de l'autre côté, on voit des efforts institutionnels, la réforme du NIH par Bhattacharya, l'enquête du DOJ, qui semblent reconnaître qu'il y a un problème, un besoin de renforcer l'intégrité, la transparence.
C'est exactement ça. C'est toute la tension actuelle, entre la critique nécessaire et la reconstruction de la confiance.
Ce qui nous amène à une question finale, peut-être un peu pour réfléchir. Comment la science, comment les institutions peuvent-elles gérer ça, encourager ce débat critique qui est vital pour avancer, mais sans faire exploser le peu de confiance publique qui reste? Comment construire une science qui soit vraiment au service de tous dans ce monde après la pandémie? C'est une question ouverte, hein?